Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi en ce lundi 15 février, date anniversaire du premier décès en France d'un malade du Covid-19, un enseignant de 60 ans s'en souvient. Aujourd'hui, les mesures barrières restent les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Port du masque, distanciation, lavage des mains, dans l'attente bien évidemment d'une vaccination globale et la vigilance qui s'impose encore et toujours, 12 mois après, surtout depuis l'arrivée des fameux variants sud-africains et britanniques en début d'année. Dans le Dunkerquois par exemple, on s'interroge toujours sur l'utilité de laisser nos enfants se rendre à l'école une semaine seulement avant les vacances scolaires dans cette région. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, sera notre invité dans un instant. L'ouverture des musées en question après la décision du maire du Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot, d'en rouvrir plusieurs chez lui la semaine dernière. Il était ce matin devant le tribunal administratif de Montpellier pour justifier son choix et celui de quelques villes qui aimeraient bien suivre son exemple. Google, condamné à payer une amende de plus d'1 million d'euros pour avoir publié son propre classement de qualité des hôtels en France, une pratique jugée trompeuse. Le président de l'hôtellerie française sera notre invité dans un quart d'heure. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Quel grand sourire sous le masque ce matin et ce midi après un beau week-end de Saint-Valentin qu'on a passé pour la plupart au chaud sous la couette.
Vous avez bien fait.
Mais les températures remontent progressivement.
Ça c'est la bonne nouvelle et ça va être le cas tout au long de la semaine avec pour la moitié sud et l'est du pays beaucoup de soleil. Ceux qui ont choisi cette semaine de profiter de la montagne ont eu le nez creux, je vous le dis Christophe. Cet après-midi, 5 à 8 degrés, ça c'est pour le nord-est, 8 à 15 degrés pour les autres. Très doux dans le sud-ouest avec 16 à Bordeaux jusqu'à 19 déjà à Biarritz. Côté ciel, c'est assez calme, un soleil voilé pour les trois quarts sud du pays. Là où c'est bien gris, c'est pour les régions les plus au nord, Bretagne, Pays de la Loire, jusqu'à la Champagne-Ardenne, en passant par l'Île-de-France, avec de faibles averses et un vent bien sensible près de la Manche.
A tout à l'heure pour plus de précisions encore. Merci à vous Céline Dacosta. La question du jour sur RTL.fr. La Covid, bien sûr, face aux variants, le gouvernement est-il trop laxiste? Vous dites oui à 47%, non à 43%. C'est presque équilibré pour une fois. On attend vos appels sur tous les sujets d'actualité du jour. Au 3210, bien évidemment, 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, avec beaucoup de sujets aujourd'hui, notamment celui-ci, des zones sans contrôle d'identité. C'est la proposition de la défenseur ou défenseuse des droits, je ne sais pas comment on dit. Claire Hédon souhaite une expérimentation pour elle dans certains quartiers, pour certains jeunes. Cela devient insupportable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y êtes favorable? En marge de cela, précisément, des policiers ont été pris à partie samedi après-midi à Poissy dans les Yvelines par une trentaine de jeunes sur Twitter. Une vidéo montre l'un des individus crier « Tuez-les, tuez-les ». Alors que plusieurs d'entre eux lancent des projectiles sur les policiers. Vous avez peut-être entendu le maire de Poissy, Carl Olive. Là aussi, ça vous fera réagir. Est-ce que nos forces de l'ordre sont en danger? Et puis, pas de reconfinement local ni de fermeture d'école. Les autorités temporisent, notamment en Moselle. On en parlera tout à l'heure.
Oui, dans le Dunkerquois, puisque notre invité sera le maire de Dunkerque dans quelques instants, Pascal. Vous pourrez l'écouter attentivement.
Avec plaisir.
Et à tout à l'heure, Pascal Pro.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour débuter ce journal ce midi, un an après le premier décès en France lié au coronavirus, l'arrivée également au ministère de la Santé d'Olivier Véran, souvenez-vous de ce ténor qui, quelques jours après et chaque soir du premier confinement, donnait de la voix de la fenêtre de son appartement parisien du 9e arrondissement, Mourad Djabari est retourné voir le chanteur lyrique.
Oui, c'était devenu un rituel. Chaque soir à 19h, Stéphane Sénéchal ouvrait ses fenêtres, brisait le silence et l'isolement du confinement. C'était en direct sur RTL et ça ressemblait à ça.
Vous l'entendez derrière moi, l'hymne à l'amour, la puissante voix de ce ténor qui résonne dans la rue, dans tout le quartier. Il est pourtant perché au 4e étage. Et depuis une semaine, chaque soir à la même heure, ce chanteur d'opéra offre un récital de quelques minutes à ses voisins. Je vous propose de l'écouter encore un peu.
Aujourd'hui, on vous retrouve toujours près de votre fenêtre. Est-ce que ces moments un peu particuliers font partie des bons souvenirs, entre guillemets, du confinement?
Moi, j'en garde un souvenir extrêmement ému. La musique, tout simplement, ce geste qui a été solidaire, artisanal, gratuit, de me mettre à ma fenêtre. Et c'était une façon ainsi de s'éloigner un petit peu du stress, de la peur ambiante. Tout ça, ça a apporté des petits instants d'évasion, de réconfort, de sourire. Oui, je pense que ça aura facilité le passage de cette période tragique.
Grâce au chant de Stéphane Sénéchal qui répète sans cesse qu'un peuple qui chante, c'est un peuple debout.
« Et aujourd'hui, on attend encore et toujours que les spectacles vivants reprennent dans les lieux de culture. Et d'ailleurs, Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, a défendu ce matin sa décision d'ouvrir des musées dans sa ville en cette période de restrictions sanitaires. Il était aujourd'hui devant le tribunal de Montpellier, le tribunal administratif. Il avait d'ailleurs symboliquement revêtu sa robe d'avocat pour défendre toutes ses motivations, qui pourraient faire d'ailleurs jurisprudence, sachant que d'autres villes ont bien envie de suivre le mouvement. On écoute Louis Alliot.
Je pense que le maire d'Issoudun l'a fait, hein, qui n'est pas du tout de ma paroisse politique. Je crois que le maire de Beauvais s'apprête à le faire. Il y a d'autres maires, je les incite à le faire. C'est pas prendre des risques, c'est pas vrai. On m'a envoyé ce matin des photos du métro à Paris que j'ai mis sur mon Facebook. C'est quand même, là vous voyez les risques qu'on prend. Qu'on me dise pas que dans un musée à Perpignan, en respectant la jauge d'un visiteur par 10 mètres carrés, on prend un risque inconsidéré. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il faut revenir à une logique. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Voilà. C'est une pandémie. C'est grave. Mais il faut apprendre à vivre avec. Parce que si les virus peuplent notre quotidien dans les années qui arrivent, on ne va pas rester confiné toute notre vie et la culture ne restera pas confinée.
Louis Alliot avec Patrick Hisson ce matin devant le tribunal administratif de Montpellier. Face à la montée de la vague épidémique, face son variant anglais, les élus de la communauté urbaine de Dunkerque ont demandé, mais en vain, dès vendredi dernier, de fermer les collèges et les lycées une semaine avant les vacances scolaires dans cette zone, et la possibilité également de ne pas amener ce lundi les enfants des écoles maternelles et élémentaires pour éviter tout attroupement. Alors ce matin, Franck Hanson, vous êtes allé sur place devant un établissement scolaire de Dunkerque où les parents ont dû respecter les consignes.
Oui, devant l'école Kléber de Malo-les-Bains, deux entrées échelonnées ce matin, une demi-heure d'intervalle selon les niveaux. Les parents ont été prévenus par mail ce week-end et il a fallu s'adapter.
C'est une bonne décision quand même de faire entrer les enfants de façon échelonnée pour éviter tout le brassage, les interactions entre eux. Maintenant, au niveau organisation, c'est pas facile quand on a plusieurs fratries. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense que l'idéal était effectivement de fermer toutes les écoles à une semaine des vacances. C'était peut-être plus simple.
C'est stressant au quotidien et de plus en plus. Tant que les gens sont pas réellement vaccinés et qu'on a plein de variants, c'est compliqué quoi.
Des nouvelles restrictions qui font débat donc parmi ces parents d'élèves. La plupart sont inquiets, en tout cas quand ils voient l'évolution des contaminations dans le Dunkerquois. Mais pour autant, ce papa préfère garder son école ouverte.
Les vacances arrivent. On t'en attend que les vacances soient parties plutôt que coupées maintenant. Puis les enfants ont besoin de l'école aussi. Hein. Après, c'est compliqué à la maison tout le temps.
Il n'y a pas de parc ouvert, il n'y a pas qu'ils disent quoi d'ouvert, il n'y a rien d'ouvert. Donc l'école, ça permet de les évader. Bon, on n'a pas le choix, on doit suivre les règles. On espère que tout ça va s'arranger et que ce virus, il va partir et qu'on va être tranquille une fois pour toutes.
Dans les collèges et lycées, contrairement aux souhaits des élus, pas de fermeture, mais un fonctionnement mixte, une partie en distanciel, un système qui existait pourtant déjà dans d'autres communes nordistes.
Merci à vous pour ce reportage ce matin à Dunkerque. Franck Hanson est avec nous justement pour aller plus loin dans RTL Midi. Patrice Vergrit, c'est le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Bonjour à vous, monsieur le maire.
Bonjour.
Mesure adaptée, on l'a entendu avec Franck Hanson, notre correspondant dans la région, et respectée visiblement par beaucoup.
C'est normal, les Dunkerquois sont toujours respectueux des décisions. Moi-même, j'ai mis ma fille à l'école ce matin. Nous sommes respectueux des décisions de l'État, on respecte le cadre démocratique. On ne trouve pas forcément ça pertinent et adapté à la réalité locale, mais on l'applique.
Il n'y a pas de côté rebelle, finalement.
Je ne le souhaite pas, d'ailleurs. Mmh. Alors, il y en a eu un peu. Hein. C'est vrai qu'un certain nombre de parents n'ont pas mis leur enfant à l'école ce matin. Mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de respecter la démocratie. Mais autant avoir des décisions adaptées à la réalité locale, ça justifierait beaucoup de choses et ça faciliterait la compréhension par la population.
Quand on écoute les spécialistes, il est vrai qu'on se dit qu'il faut maintenant prendre des mesures peut-être plus, non pas nationales, mais région par région, secteur par secteur. Vous adhérez ?
Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Écoutez, déjà la semaine passée, c'est nous, élus locaux, qui avons tiré la sonnette d'alarme. On a nous-mêmes évoqué la place des variants anglais dans les cas de Covid positifs. C'est nous qui l'avons révélé. Derrière, l'État a été obligé de réagir. On a réfléchi sur les mesures les plus adaptées. On a essayé de réfléchir, les élus locaux, où étaient les regroupements. On l'avait identifié dans les collèges, les lycées et dans les écoles. On avait proposé des mesures qui respectaient la réalité locale. Et on a quoi ? L'État qui applique des mesures en me justifiant en disant « Ah ben on ferme pas les lycées et les collèges en Moselle, donc on va pas les fermer à Dunkerque. » Mais c'est quoi cet argumentaire ? Aujourd'hui, quand Jean Castex dépose un projet de loi au Conseil d'État qui s'appelle 4D, avec le mot « différenciation », et moi, on me justifie les mesures à Dunkerque comme ça, en disant « On fait comme ça en Moselle, donc on fera à Dunkerque. » Mais où est la différenciation ?
C'est ça. Et vous laissez tomber, finalement, sur où vous avez encore des arrêtés à prendre, peut-être d'ici la fin de la semaine, pour demander à ce qu'on parte en vacances plutôt chez vous ?
Non, ce n'est pas de mon ressort, je ne le ferai pas. Mais j'appelle. Du coup, j'ai demandé aux Dunkerquois, en qui j'ai confiance, de respecter ça, d'être vigilant surtout. Du coup, on sait qu'on ne pourra pas compter sur l'État pour avoir des mesures justes. Ce n'est pas une question de laxisme ou pas de laxisme. C'est d'avoir des mesures qui sont adaptées à la réalité locale. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc les Dunkerquois seront vigilants, je pense.
D'accord. Voilà. Justement, quand on parle de vigilance, avez-vous réussi à tenir tout votre monde pendant ce carnaval de Dunkerque qu'on connaît par cœur? On a l'habitude avec le lancer de harangues, par exemple. On sait que ce n'est pas simple. Ça s'est fait de façon virtuelle. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de petites fêtes clandestines?
Oui, mais vous savez, on l'imaginait, on l'avait bien anticipé, on savait qu'il n'y aurait pas de regroupement. Je le redis, hein, les Dunkerquois sont respectueux, ils sont responsables. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. On l'a fait en virtuel, j'ai envie de dire, voilà, en vidéo. On a regardé quelques concerts à la télévision. C'est un peu triste, c'est pas le carnaval qu'on aime à Dunkerque, mais c'est tout, c'est être responsable. Et les Dunkerquois le sont.
Heureusement que vous avez conservé le fameux concours du cri de la mouette, hein, qu'on adore sur RTL. Un peu de sourire, ça fait jamais de mal. Un peu de culture aussi. J'écoute à l'instant, et peut-être vous aussi, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, avec les auditeurs d'RTL, Louis Alliot, le maire du Rassemblement National de Perpignan, qui a ouvert ses musées comme à Issoudun, qui est un autre parti politique d'ailleurs, le maire de cette ville. Est-ce que vous aussi, ça vous tente pas de, en respectant les mesures, puisqu'on peut aller à l'école finalement, pourquoi ne pas respecter les mêmes consignes pour aller dans les musées?
Aujourd'hui, je suis très loin de cette optique-là. J'essaie surtout de respecter nos soignants. Vous savez, à Dunkerque, la situation est compliquée. Hein. On a un hôpital qui est saturé, des patients qui sont transférés. On a aujourd'hui des soignants, notamment des soignants de ville, qui sont épuisés. Ils sont en train de faire des messages vidéo pour alerter la population. Donc je suis très loin, effectivement, de cet optimisme-là. Aujourd'hui, j'ai surtout envie d'appeler ma population à la vigilance et la protéger. Je pense que c'est ça ma priorité. On verra le moment venu. Après, j'aimerais bien que l'État applique des mesures adaptées à chacun des territoires.
C'est pas déconnecté.
Oui. Déjà un grand pas. Voilà.
Merci mille fois d'avoir été avec nous, monsieur le maire. Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, est président de la communauté urbaine avec la liaison assurée par Franck Hanson, là-haut dans le nord, dans les Hauts-de-France. Il est 12h42 sur RTL. Dans un instant, l'histoire d'une jeune maman de 36 ans frappée devant son domicile, le bébé dans ses bras, par un de ses voisins. Elle a eu toutes les peines du monde à porter plainte.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
C'est un fait divers qui ne vous a pas laissé indifférent ce week-end avec cette femme de 36 ans qui a posté sur les réseaux sociaux une photo de son visage tuméfié, son bébé dans les bras après avoir été frappée par un de ses voisins alors qu'elle rentrait tout juste de la maternité. Elle a eu toutes les peines du monde à pouvoir porter plainte. Alice Moreno, bonjour. On en sait un peu plus dans cette affaire.
Alors les faits remontent à mercredi dernier. Cette jeune mère de famille revient de l'hôpital avec son bébé prématuré. Elle laisse sa voiture quelques minutes devant la porte de son immeuble du Nord parisien. Juste le temps de mettre sa petite au chaud. Mais voilà qu'un voisin octogénaire ne supporte pas qu'elle soit ainsi stationnée devant la porte. Il fait irruption dans le hall d'immeuble, la frappe au visage, elle perd connaissance un bref instant. Son compagnon s'interpose et porte à son tour un coup au voisin. Les deux hommes sont embarqués par la police. Arrivés au commissariat, aucun des deux ne souhaite pourtant déposer plainte contre l'autre. Ce n'est que le lendemain que la jeune maman rappelle la police du 18e qui lui refuse un rendez-vous. Il faut se présenter au commissariat et patienter comme tout le monde. Après plusieurs jours d'attente, elle a finalement déposé sa plainte hier. Le voisin mis en cause devrait être entendu prochainement. Rien d'anormal dans ces délais, insiste une source policière. Aucun dysfonctionnement dans cette affaire.
Merci pour toutes ces précisions. Alice Moreno, service police-justice d'RTL. Les chiffres de la sécurité routière avec au mois de janvier 171 personnes tuées sur nos routes lors du premier mois de l'année contre 264 l'année prochaine. Soit, vous avez fait le calcul, 93 personnes décédées en moins en cette période évidemment de couvre-feu. En revanche, la mortalité, attention, chez les motards est en hausse. C'est une information RTL qu'on vous dévoilait ce matin. Elle concerne l'aide exceptionnelle aux travailleurs précaires. Elle va être prolongée de 3 mois avec des versements échelonnés d'ici l'été. Plus de 500 000 travailleurs précaires pourraient en bénéficier, Anaïs Bouissou.
Oui, cette aide concerne les demandeurs d'emploi qui ont enchaîné les contrats en 2019, mais qui ont été victimes de la crise en 2020. Sans travail, donc sans nouveau droit au chômage. Ce sont beaucoup de jeunes, 160 000 jeunes d'après la ministre Elisabeth Borne. Beaucoup de saisonniers, de travailleurs de l'hôtellerie-restauration ou dans le secteur de l'aide à la personne. Ils viennent de recevoir un premier versement la semaine dernière et 2 primes supplémentaires sont déjà budgétées fin février et fin mars. Au vu de la crise sanitaire, le ministère du Travail a donc décidé de prolonger ce dispositif, prolonger cette prime 3 mois de plus, avec 3 nouveaux versements en avril, en mai, en juin prochain, en espérant que d'ici là, la situation du marché du travail s'améliore. Tout compris, le budget de cette prime est estimé à un peu plus d'1 milliard d'euros. pour tenir jusqu'à l'été.
Merci à vous Anaïs Bouissou. Autre exclusivité RTL, cette information concernant le géant, cette fois Google, qui se voit infliger une amende d'€1,1 million pour pratique commerciale trompeuse. Google sanctionné d'avoir créé tout simplement son propre classement, bien différent du classement officiel en matière de qualité de nos hôtels français, les fameuses étoiles. Le président de l'UMI, Hôtellerie Française, Laurent Duc, est avec nous dans RTL Midi. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est une décision qui doit vous satisfaire finalement aujourd'hui.
C'est une demande historique de la part des hôteliers, puisqu'on ne peut pas protéger le mot hôtel, donc on a réussi à protéger le classement des hôtels, et pas que, des campings, des résidences de tourisme. Donc le classement d'Atout France est souverain, associé au nom de la pratique. Donc un hôtel avec des étoiles, ça correspond à un critère et ça correspond à un classement délivré par Atout France.
Ce qui fait qu'on évite toute confusion aujourd'hui finalement.
Absolument. Et depuis le départ où Google s'est mis à faire des avis en ligne et des classements d'hôtels, on était intervenu pour leur faire cesser cette utilisation des étoiles qui est illicite en France. Bien évidemment, on s'adresse à Goliath, hein, on est David, on nous a retourné d'un revers de main en disant que c'était leur problème. Aujourd'hui, c'est de plus en plus grave, hein, puisque maintenant les hôtels se déclarent du classement qu'ils veulent. Donc ceux qui sont classés, ceux qui sont pas classés. Alors ceux qui sont classés, ils ont l'honnêteté de le faire avec leur classement. Ceux qui sont pas classés, ils disent ceux qu'ils veulent.
Le risque pour nous consommateurs, c'est de prendre un 4 étoiles pour un 2 ou 2 pour un 4. Hein, on est d'accord.
Alors pour l'anecdote, hein, au début des étoiles sur les avis en ligne de Google, il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Palace à Paris qui avait une étoile au classement officiel et qui avait 5 étoiles dans les avis et qui passait pour un 5 étoiles. C'était très drôle.
D'accord. Et où était la différence finalement? Vous l'avez constaté sur place vous-même?
Ah ben, un hôtel qui s'appelle Palace qui a une étoile au classement, vous vous doutez qu'il n'a pas une salle de bain dans toutes les chambres.
Juste une question naïve peut-être aujourd'hui, mais on contrôle les étoiles tous les ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans?
Alors le classement doit être effectué et valable 5 ans. Alors 5 aujourd'hui, ans. Avec la crise du Covid, on demande à décaler d'un an, parce que comment classer un hôtel qui n'est pas ouvert ou qui n'a pas toutes ses prestations, type restaurant-bar? J'en profite pour dire que aujourd'hui, on peut dormir dans la même chambre, mais pas manger en tête-à-tête au restaurant de l'hôtel. C'est quand même un comble. Donc on peut pas classer nos hôtels en ce moment. On a demandé un décalage jusqu'à la fin de l'année. C'est bien 5 ans.
Pour conclure, Laurent Duc, les derniers chiffres pour l'instant font apparaître que les résidents de tourisme, ça fonctionne très très bien, mais que pour les hôtels c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous avez envie de demander au gouvernement aujourd'hui encore une aide plus précieuse? Comment faire ou donner plus d'activité à l'intérieur?
Alors déjà les hôtels passent à travers tous les trous des raquettes, monsieur. Je prends le cas du restaurant, on en parlait il y a 15 secondes. Nous, nos restaurants d'hôtels ne peuvent pas servir ni même nos clients internes, donc qui logent dans nos hôtels parce que nos hôtels ne sont pas fermés administrativement. En contrepartie, le fonds de solidarité ne les traite pas, ces restaurants, comme des restaurants normaux. Donc finalement, on fait un mélange entre notre chiffre d'affaires de l'hébergement et notre chiffre d'affaires de restauration inexistant, et on nous donne moins d'aide qu'un propre restaurant, alors que nos personnels de restaurant, nos cuisiniers, sont complètement frappés par l'interdiction de travailler.
J'ai bien compris.
Donc c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui. Et que donc les résidences de touristes qui, elles, disposent d'un petit coin cuisine, bien évidemment...
Elles fonctionnent à merveille.
À merveille, par après.
Laurent Duc est avec nous aujourd'hui en direct. Merci, monsieur le président de l'UMI, Hôtellerie France. D'un instant, le sommet du G5 consacré à la situation au Sahel et des questions quant à la présence de nos militaires français encore et toujours, ou pas, en Afrique subsaharienne.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
Et le début du sommet du G5 aujourd'hui à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le président de la République française va y assister par visioconférence. Bonjour à vous, Christophe de Croix.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service étranger d'RTL. Depuis 8 ans, la France est engagée dans cette région du monde pour lutter contre les djihadistes. Et l'une des questions qui va se poser dans ces prochaines heures, dans ces prochaines discussions, est de savoir, après 57 soldats tués, je précise, si l'on se dirige vers un désengagement total ou alors une simple réduction des effectifs présents à elle pour nos forces militaires.
Alors, désengagement total, non. On en est encore très loin. Récemment, Florence Parly, la ministre des Armées, rappelait certes que notre présence n'est pas éternelle, mais, ajoutait-elle, nous resterons le temps nécessaire pour que les forces armées armées de nos partenaires sahéliens soient en mesure de mener ce combat par elles-mêmes. Et ça, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas demain la veille. Si l'armée malienne résiste un peu mieux aux coups de boutoir des djihadistes, elle reste sous-équipée et insuffisamment formée. Quant aux soldats du Burkina Faso, c'est à peine s'ils sortent de leur base. Non, la question c'est, peut-on rappeler en France les renforts qu'on a envoyés il y a moins d'un an, c'est-à-dire 600 hommes? Jusqu'à ces dernières semaines, ça semblait acquis. Le président Macron annonçait un ajustement. Aujourd'hui, c'est moins sûr. Ces dernières semaines, l'armée française a encore perdu 5 soldats et il y a eu des attaques djihadistes d'envergure. Le président français pourrait donc reporter sa décision ou faire rentrer moins de soldats que prévu. C'est l'un des sujets de discussion avec ses homologues du Sahel lors de ce sommet.
Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL, merci à vous. Les championnats du monde de ski alpin en sport à Cortina d'Ampezzo. Aujourd'hui, ce sont les épreuves du combiné. Garçons et filles, pas mal de chances de médailles quand même du côté des garçons.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Aujourd'hui, direction Belfort. Au lendemain de la Saint-Valentin, c'est une très belle histoire d'amour que l'on vous propose et de tendresse. En cette période de Covid, Julien a tenu à faire partager son bonheur d'être papa pour la première fois. Et pour cela, il a mis les moyens, les grands moyens, Yannick Holland.
Oui, Julien était tout à son bonheur de devenir papa pour la première fois. Un petit Miguel, né à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Mais en ces temps de Covid, le reste de la famille n'a pas eu le droit de venir voir le bébé ou Cindy, la maman. Julien, qui travaille dans une entreprise d'événementiel, décide alors de sortir les très grands moyens sur le parking de l'hôpital.
Je me suis dit, bah, tiens, t'as un écran géant sur un camion. Et on a monté l'écran juste devant sa fenêtre de la maternité. Et là, on a passé un film avec tous les membres de notre famille proche et nos amis. Et c'est vrai que c'était un moment assez fort de l'avoir avec le sourire aux lèvres et puis pleurer. C'est vrai que c'est très, très émouvant.
Et toute la famille a pu profiter de cet instant en direct.
On avait fait un groupe Facebook et avec un drone, je pouvais filmer l'écran. Et je pouvais aussi faire une rotation en direction de la chambre pour voir Cindy. Et je diffusais en direct sur le groupe Facebook de la famille. Honnêtement, devenir papa, celui qui n'a jamais vécu ça, il ne peut pas comprendre la joie que ça crée.
En tout cas, les futurs papas sont prévenus. Un simple film sur tablette, c'est désormais petit joueur.
Ah oui, petit joueur, la petite tablette, oui. Ah, ce grand écran, tous vos enfants, vous les avez affichés, vous, en petite photo. À l'époque, c'était du Polaroid.
Le Pola.
C'est le Pola.
Oui.
Pascal, pour le retour, vous écoutez le journal, qu'est-ce qui vous a plu ?
C'est vrai que l'affaire de Poissy est quand même extravagante. C'est quand même des policiers qui ont été pris à partie samedi après-midi dans les Yvelines par une trentaine de jeunes. Alors, on me dit, c'est le quotidien des policiers. J'imagine que c'est pas le quotidien des policiers pris en permanence par une trentaine de jeunes. Autrement, je m'inquiète véritablement de ce pays. Mais ce qui est vrai, c'est que là, il y avait des images. Et sur ces images que vous avez peut-être vues, on voit une vidéo qui montre un individu, on ne sait pas d'où ça sort d'ailleurs, il faut être prudent sur cette vidéo, qui dit « tuez-les ». On ne sait pas qui dit ce mot-là. Mais c'est vrai que on peut quand même imaginer la difficulté pour les policiers d'être sur le terrain en permanence et d'être pris à partie comme ça. Alors j'imagine que ça vous fera réagir. Que doit faire le gouvernement? C'est toujours des solutions qu'on imagine, que certains imaginent. Et le maire Carl Olive a pris la parole avec des propos assez forts. Et en même temps, et c'est ça le paradoxe, vous avez la défenseur des droits, Claire Hédon, qui demande des zones sans contrôle d'identité. C'est quand même une proposition assez étrange.
Ça fait débat, monsieur Pro.
Ça fait débat.
On vous retrouve au 32-10, hein, 13h, jusqu'à 14h30, avec bonheur. On revient à la météo. Ça s'est rafraîchi pendant tout le week-end. Mais là, ça y est, on va avoir des vraies températures de saison, quoi, d'hiver, mais vraiment, j'allais dire, honorable.
Oui, c'est vrai, les températures remontent 8 à 15 degrés, c'est la moyenne cet après-midi. Il faisait 2 degrés hier à Paris, il en fera 8 cet après-midi. Alors, ce sont, c'est vrai, des valeurs de saison, en tout cas pour la moitié nord, car on est déjà au-dessus de cette moyenne de saison dans le sud-ouest, avec 16 degrés attendus à Bordeaux cet après-midi, 18 à Tarbes, mais même 19 à Biarritz. Côté ciel, c'est calme, mais assez nuageux, avec un soleil voilé au sud de la Loire. Ce sera juste un petit peu plus couvert sur le Gard et les Bouches-du-Rhône, avec quelques gouttes possibles. Un petit peu plus gris aussi pour les régions les plus au nord, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Champagne-Ardenne et Hauts-de-France, avec là encore quelques averses dans l'après-midi. Puis on a aussi un petit peu de vent près de la Manche, hein, dans la vallée du Rhône. Vent également sur l'ouest des Pyrénées et les plaines toulousaines. Ça, c'est le vent d'autant, hein, qui souffle à 70 km à l'heure. Et puis on termine par le seul département encore en vigilance. C'est la Charente-Maritime, vigilance orange. La Charente-Maritime pour crue.
Petite tendance, peut-être pour ce week-end, va faire bon.
Oui, ouais. C'est vrai. La douceur va s'imposer dans les prochains jours. Déjà, déjà doucement, puis on passera de l'hiver au printemps, on peut le dire en une semaine, puisque Météo France prévoit un week-end ensoleillé, 17 à 18 degrés en moyenne pour tout le monde dimanche.
Merci mille fois Céline Dacosta. Dans deux minutes, il sera 13h, les auditeurs ont la parole, vous le savez, comme tous les jours de la semaine dans RTL Midi, Pascal Pro et vous au 32 10 3 2 1 0.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je m'aperçois que Gérald Darmanin est déjà sur le terrain à Poissy après ces scènes d'une grande violence que vous avez peut-être vues samedi en fin d'après-midi. Dans le quartier Beauregard de Poissy, une patrouille de police avait été appelée en intervention et une trentaine de jeunes avaient pris à partie patrouille de police. On est avec Adama pour... bonjour Adama. Pour bonjour. Des zones sans contrôle d'identité. Vous allez pouvoir nous donner votre avis sur ce sujet.
Oui, alors moi bonjour à tous déjà. Moi je n'y suis pas favorable parce que je...
Et vous allez nous expliquer dans une seconde pourquoi, si j'ose dire. Mais tout d'abord, notre ami Christophe Paco, le rappel des titres.
Débat très intéressant, Pascal. Aujourd'hui, rappel des titres avec Dunkerque, évidemment, qui s'inquiète face aux variants anglais. Et le maire, qui était notre invité tout à l'heure, Patrick Vergrit, qui dénonce des mesures tout simplement déconnectées après que la préfecture a décidé de garder les écoles, les collèges et les lycées ouverts, malgré l'accélération de la circulation du fameux variant anglais de Covid-19 dans la région. Ce matin, les parents d'élèves se sont adaptés à une rentrée échelonnée. L'aide exceptionnelle créée en novembre dernier pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires est prolongée de 3 mois. C'est une information RTL. Et puis Google, autre info RTL, a écopé d'une amende de plus d'1 million d'euros en France après avoir fait un classement trompeur des hôtels, substituant une classification établie par l'État selon ses propres critères à elle finalement. Et c'est vrai que c'est difficile de passer d'un 1 à 5 étoiles. Pour comprendre la différence, on l'expliquait tout à l'heure avec le président de l'Hôtel de France, c'était pas si simple. Maintenant, ça y est, on va éviter la confusion en s'adaptant simplement au classement de l'État. 5 pays du Sahel et la France, bien sûr, se réunissent en sommet aujourd'hui pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans cette région du monde. Et puis les sports, le tennis à Melbourne, malgré une belle douleur au dos, l'un de ses grands favoris, Rafael Nadal, s'est qualifié tôt ce matin pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Il a battu l'Italien Fonini. En quart, il affrontera le Grec Tsitsipas. Ou pas.
Merci Christophe.